9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bienvenue dans cette arrivée cette semaine. On va commencer par Omicron, ce nouveau variant qui crée la panique. Que sait-on de lui exactement et qu'y a-t-il de vraisemblable dans toutes les théories qui s'échafaudent à son sujet? On va voir ça avec l'un des meilleurs spécialistes des coronavirus, le virologue Bruno Canard, et mon premier invité ce matin. Je recevrai ensuite Jérôme Sainte-Marie, il est sondeur et politiste. On va s'intéresser avec lui à la primaire des Républicains, dont le résultat final sera connu cet après-midi. Quelles leçons en tirer? Est-ce que ça va changer la donne? Il va nous le dire.
Europe 1.
Bonjour Bruno Canard.
Bonjour.
Vous êtes virologue, directeur de recherche au CNRS dans un laboratoire marseillais. Vous travaillez sur le coronavirus depuis 2002 et votre équipe a été l'une des premières à étudier comment le SARS-CoV-2 fabrique son matériel génétique. Cela veut dire que les variants sont une de vos préoccupations. Est-ce que Omicron vous inquiète ?
Alors, Omicron est effectivement inquiétant dans la mesure où il contient un taux de mutation extrêmement élevé qui est totalement inattendu. En particulier, la question que ça pose, c'est comment est-il possible d'obtenir autant de mutations en si peu de temps, puisqu'en fait, on l'a retrouvé du jour au lendemain. Donc, effectivement, cette capacité d'adaptation pose question.
Comment expliquez-vous qu'en quelques jours, un variant dont nous ne savons pas grand-chose, qui représente une part infime des contaminations dans le monde pour l'instant et qui n'a tué personne, crée une telle panique mondiale?
Plusieurs choses expliquent ça. La première des choses, c'est quand on voit la courbe de détection et de recensement de ce variant. Donc le nombre de cas, elle est extrêmement abrupte. Et donc elle augmente très très vite, elle augmente beaucoup plus vite que ce qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire, nous, on avait déjà été extrêmement étonnés de voir le SARS-CoV-2, sa courbe qui a augmenté par rapport à celle du SARS-CoV-1 en 2002-2003. Et là, ensuite, il y a eu le variant Delta qui a augmenté encore plus vite. Et puis là, on se rend compte qu'on a effectivement une courbe de fréquence de détection de ce variant qui est encore plus abrupte, ce qui veut dire qu'il va probablement, si ça continue comme ça, si tout est vérifié, il va remplacer certains des variants qui sont actuellement distribués un peu partout.
Donc ça veut dire qu'on est pratiquement certain aujourd'hui qu'il est plus transmissible que le variant Delta.
Alors, il faut se méfier des biais, en particulier si on cherche à un certain endroit où ce variant se développe et qu'on en trouve beaucoup, effectivement. Ça ne veut pas dire que ça va être vrai dans l'ensemble du monde et l'ensemble des parties, mais oui, ce qu'on voit pour le moment effectivement fait penser à ça.
On ne sait pas vraiment pour l'instant si Omicron va réduire l'efficacité des vaccins.
On peut regarder sa carrosserie externe, sa fameuse protéine Spike, et s'apercevoir qu'elle contient beaucoup de mutations qui sont ces mutations, ces parties de virus qui sont ciblées par les anticorps. Et donc, comme elles ont muté, elles sont différentes. Les anticorps qui vont être fabriqués soit après la vaccination, soit après une infection naturelle par un autre variant, ont beaucoup de chances de ne pas reconnaître le Omicron et que ce virus se développe. Cependant, il y a encore une autre couche d'immunité qui est l'immunité cellulaire, qui, celle-là, sera toujours présente. Et donc, on sait qu'il y aura quand même, de toute manière, une immunité croisée, résiduelle, qui va peut-être tout simplement faire que le variant Omicron infecte beaucoup, mais ne crée pas beaucoup de dommages. On ne sait pas encore. Encore une fois, il faut attendre 15 jours, 3 semaines pour avoir une idée beaucoup plus précise. Parce que là, on est au tout début de cette nouvelle épidémie dans l'épidémie.
Pour l'instant, on n'est pas sûr qu'Omicron provoque une maladie plus grave que les variants précédents.
Voilà. Pour le moment, il n'y a pas assez de cas qui ont été répertoriés. Et surtout, donc, tout simplement, pour faire une statistique correcte, il faut qu'il y ait beaucoup de cas et qu'on puisse comparer le nombre de cas à l'hôpital par rapport au nombre de cas totaux et le nombre de cas problématiques qui ont créé des maladies graves par rapport au nombre de cas totaux. Et donc, pour le moment, on est au début. On peut pas être, on a une vue trop floue encore.
En fait, Omicron est l'illustration de ce que l'on sait depuis longtemps. Tant que tout le monde sur la planète ne sera pas vacciné et que les pays riches monopoliseront les doses, le virus continuera de circuler, il y aura des variants et l'un d'entre eux finira peut-être par être plus fort que les vaccins.
Voilà, c'est exactement ça. Par exemple, en ce qui concerne le Delta, effectivement, le Delta est arrivé et tout le monde, maintenant, je pense que s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui sont doublement vaccinés et qui sont quand même infectés par le Delta. Alors, fort heureusement, Ils ne font pas de maladies graves, où ça a beaucoup, beaucoup réduit l'incidence de maladies graves. Par contre, l'impact qu'il y a, c'est que si ce virus se réplique chez des personnes qui ont une immunité donc qui est partielle, il continue à circuler et avec une certaine pression de sélection. Et donc cette pression le pousse à évoluer. Et donc effectivement, ce que vous dites est parfaitement vrai. Il faudrait à un certain moment avoir une circulation nulle et des anticorps partout pour que le virus s'arrête de se développer.
On fait une pause, Bruno Canard. Vous restez avec nous. J'ai encore plusieurs questions à vous poser. Celles que ce variant Omicron nous pose, évidemment.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine. 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec le virologue Bruno Canard. Que pensez-vous de la théorie selon laquelle il y a une pression à la sélection exercée par la vaccination de masse? En gros, plus on vaccine et plus les variants deviendraient méchants.
Alors, plus on vaccine, plus on crée de variants, mais ça c'est l'immunité naturelle fait exactement la même chose. C'est-à-dire, quand il y a des anticorps, le virus est éliminé, mais les virus qui sont résistants, existants dans la population de ces virus, ben, sont effectivement pas éliminés. Donc c'est une cause absolument naturelle. Qui est pas du tout à prendre d'un côté négatif. C'est normal. Quand on fait une vaccination, soit le virus est tué brutalement et il n'y a pas d'échappement, soit il y a toujours une quantité de virus mutant qui peut échapper, que ça soit avec l'action d'un anticorps qu'il arrive de la vaccination ou qu'il arrive d'une immunité naturelle, c'est normal.
Oui, mais alors certains nous disent aujourd'hui qu'avec la vaccination de masse on risquerait de créer un super virus plus contagieux et de plus en plus résistant au vaccin, et cela même voit Omicron comme une première représentation.
Je prends l'hypothèse inverse, on laisse tout et on laisse le virus se développer. L'immunité naturelle va à la fin faire exactement la même chose, c'est-à-dire éliminer des virus qui vont ensuite, eux, évoluer vers des variants, sauf que le procédé va être beaucoup plus long et il va y avoir beaucoup plus de morts.
Bon, vous nous rassurez. En attendant, le PDG de Pfizer a déclaré à la télévision américaine qu'il sera capable de produire un vaccin adapté à Omicron en moins de 100 jours. C'est ce que l'on a toujours dit d'ailleurs, hein. L'avantage avec les vaccins à ARN messager, c'est que l'on peut les modifier facilement et les adapter aux nouveaux variants. Cela a été répété par les scientifiques, notamment dans cette émission, sauf qu'on ne l'a jamais vu, me semble-t-il. Le vaccin Pfizer a-t-il été adapté au variant Delta ?
Alors, je partage votre interrogation. On nous a fait dire, nous les scientifiques, effectivement, que c'était facile d'adapter ces vaccins, etc. Et c'est la vérité, c'est facile. Et je constate, comme vous, que ça fait de longs mois qu'on aurait dû avoir... on a eu le variant Delta qui est arrivé, et que si c'était si facile, on aurait dû avoir un vaccin contre le variant Delta, par exemple. Et or, il n'est pas arrivé. Ce vaccin a été soit mis un peu en veilleuse, puisque j'ai entendu dire qu'il avait été commencé à être préparé, mais pas distribué. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que tant que le vaccin protégé contre le vaccin donc originel, protégé contre les formes graves, les gens se sont contentés de ça et ont concentré leur effort sur fabriquer et distribuer ce vaccin. Donc ça part d'un bon sentiment, mais en faisant ça, on facilite la circulation du virus puisque l'immunité est partielle. Et donc finalement, ce n'est pas une bonne chose. Et je pense qu'il faut maintenant mettre la pression sur les industriels pour que lorsqu'il y a un virus qui devient prédominant à un certain endroit du monde, en particulier par exemple le Delta en Europe, il est absolument prédominant, eh bien je pense qu'il serait bon de développer des vaccins spécifiques pour pouvoir couvrir bien mieux la vaccination et ne pas avoir d'échappement qui continue à créer des variants.
En France, la campagne de rappel a commencé. Nous devons recevoir notre troisième dose avant le 15 janvier, mais c'est toujours la formule originale. Que dites-vous à ceux qui se demandent s'ils ne devraient pas attendre 3 ou 4 mois pour avoir la nouvelle formule adaptée aux variants Omicron ?
Alors, je leur dis que l'épidémie qui est en ce moment l'épidémie problématique est une épidémie au variant Delta. Et donc, la troisième dose permet de monter le titre des anticorps et de monter considérablement la protection. Et donc, effectivement, il pourrait avoir le choix d'attendre et de prendre cette épidémie qui arrive, cette vague Delta qui arrive, vraiment en pleine face. Et donc, je pense qu'il est bien mieux de se vacciner avec une troisième dose maintenant pour éviter l'épidémie présente et voir ensuite, pendant ce temps, que les industriels travaillent à nous proposer un vaccin contre Omicron, si Omicron devient un problème. Au cours du printemps, eh bien, on aura passé cette vague et on espère qu'à ce moment-là, on pourra avoir des armes pour lutter contre Omicron à ce moment-là. Mais chaque chose en son temps, je pense qu'en ce moment, ce qui est important, c'est d'éviter les problèmes graves qu'il peut y avoir avec la vague Delta maintenant.
Bruno Canard, Omicron suscite beaucoup de théories. Il y en a une optimiste que j'aimerais vous soumettre également. Certains disent que Omicron pourrait être une bonne nouvelle s'il est plus contagieux et moins virulent, encore moins létal que ne l'est aujourd'hui Delta, par exemple. Le Covid pourrait devenir une maladie bénigne, un simple rhume. Est-ce que c'est possible ?
C'est tout à fait possible et uniquement l'examen des statistiques et de ce qui va se passer dans les 15 jours à 3 semaines qui arrivent va nous dire finalement. Effectivement, imaginons qu'il ne crée aucune hospitalisation et qu'il crée une maladie légère et pour tout le monde effectivement, hein, parce que si jamais il y a une certaine tranche de population qui elle est affectée, et bien donc il faut quand même y faire attention. Mais si c'est un virus qui est bénin comme un rhume, quoi, qui ne donne pas de maladie grave, à ce moment-là, et qu'il est très transmissible, à ce moment-là, ça va être un vaccin naturel qui va vacciner la planète. Et ça en sera terminé. S'il donne une immunité croisée avec les autres variants, ça pourrait se terminer comme ça. Mais rien n'est sûr là-dessus. Et l'observation de ce qui va se passer à l'heure actuelle, en comptant les cas graves et comment le virus se répand, va nous dire. D'ici 15 jours, 3 semaines, je pense qu'on aura de bonnes indications.
Merci Bruno Canard. Je rappelle que vous êtes virologue, directeur de recherche au CNRS dans un laboratoire marseillais. Merci encore. On se retrouve dans un instant avec Jérôme Sainte-Marie. On va parler de la primaire des Républicains.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Jérôme Sainte-Marie.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des études d'opinion. Vous êtes l'auteur de Bloc contre Bloc qui a reçu le prix des députés en 2020 et de Bloc populaire qui vient de paraître aux éditions du CERF. Nous sommes à quelques heures de savoir qui de Valérie Pécresse ou d'Éric Ciotti, les 150 000 adhérents du Parti des Républicains, ont choisi comme candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'ores et déjà sur cette primaire ?
Bah pour l'instant, enfin à ce stade, c'est déjà une réussite en termes d'organisation. Il n'y a pas eu de contestation sur les résultats du premier tour, alors même que l'écart est très serré entre les principaux candidats. On est à moins de 2000 voix d'écart. Personne n'a contesté ces résultats. Aussitôt, les deux principaux candidats battus, M. Barnier et M. Bertrand, ont accepté l'issue des urnes sans aucun problème. Il y a même eu un regain comme ça d'adhésion. On est arrivé à peu près 140 000 adhérents avec une participation de 62%. Bon, voilà, c'est pas un objectif particulièrement ambitieux pour un très grand parti comme les LR, qui a gouverné la France, qui dirige des régions importantes, qui a réussi à l'emporter au niveau des scrutins locaux. C'était pas un défi immense, mais enfin, pour l'instant, il était bien relevé.
Pendant les débats de ces primaires, les participants se sont exprimés comme s'ils étaient dans l'opposition.
Oui, alors ça, c'est tout à fait significatif. C'est-à-dire que c'est un parti, les Républicains, qui n'a toujours pas vraiment tranché depuis 2017 sa position par rapport au pouvoir. Il faut savoir que le 4 juillet 2017, premier vote de confiance au gouvernement d'Édouard Philippe, les trois quarts du groupe LR, il y avait près de 120 députés de droite à ce moment-là, choisissent courageusement de s'abstenir. Et ce n'est pas uniquement un problème de caractère, un problème de personne, c'est aussi un problème de base électorale. Il faut savoir que très fréquemment, on a 40 à 50% des sympathisants LR aujourd'hui, donc des gens qui n'ont pas rejoint La République En Marche, 40 à 50% de ces sympathisants LR expriment une opinion favorable à l'égard d'Emmanuel Macron ou bien du Premier ministre, qui en plus dans les deux cas, que ce soit M. Castex ou M. Philippe, est issu de la droite. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a ce problème de positionnement est très difficile à résoudre. Et là, vous avez raison, on a une débauche d'opposition au gouvernement qui laisse présager de futurs déséquilibres.
Valérie Pécresse représente à l'heure actuelle, en moyenne, vous allez me corriger si je me trompe, mais environ 10% des intentions de vote au niveau national, et Éric Ciotti, 5%.
Oui, alors, si on prend le dernier sondage Opinion Way, il faut bien en prendre un, c'est 11% pour Valérie Pécresse, enfin c'était, puisqu'on est, là, elle est quand même peut-être un peu portée par ce résultat du premier tour, éventuellement du second. Et 11%, c'est pas beaucoup, c'était même moins que Xavier Bertrand. Pour M. Ciotti, il faut être très très prudent sur ses intentions de vote, dans la mesure où Éric Ciotti est pour l'heure assez peu connu. Donc il pâtit tout simplement dans un manque de notoriété. Quand vous testez des intentions de vote, vous testez des noms de personnes et non pas des noms de personnes rattachées à une formation politique. Et je crois que tout simplement, beaucoup de sondés ne savent pas du tout qui est M. Éric Ciotti.
Mais néanmoins, pour le grand parti dont vous parlez, ce sont des intentions de vote au niveau national qui paraissent assez faibles.
Bah oui, c'est faible. 11%, par exemple, pour la Pécresse, c'est à peu près la moitié de ce qu'avait obtenu François Fillon. Et pourtant, avec François Fillon, c'était la première fois où la droite n'était pas présente au second tour d'une élection présidentielle. Donc effectivement, c'est très faible parce qu'il y a eu, on le sait bien, un départ de nombreux électeurs de droite vers Emmanuel Macron dès 2017, et ça s'est accru au fil du quinquennat, notamment au début du quinquennat. Beaucoup d'électeurs de droite ont apprécié les réformes d'inspiration plus ou moins libérale menées par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Et puis il y a aussi une déperdition d'électeurs vers le Rassemblement National, tout simplement, et maintenant, et désormais vers Éric Zemmour. Donc si vous voulez, si vous regardez les intentions de vote par rapport au vote de 2017, vous vous rendez compte que le candidat de droite regroupe à peu près 50%. Et 50% seulement des électeurs anciens de François Fillon.
Donc ça, c'est votre théorie bloc contre bloc, hein, qui était le sujet de votre livre précédent. Mais pour vous, en dépit de cela, les Républicains restent un grand parti de gouvernement.
Oui, c'est même probablement le seul parti de gouvernement, si j'ose dire. Dans la mesure où La République En Marche a beaucoup de mal à devenir un véritable parti. On a bien vu qu'il n'y a pas d'implantation locale. Et la nature même de ce mouvement, LREM, fait qu'il est difficile d'y mener, si j'ose dire, une carrière militante. L'autre côté, vous avez un grand parti de gouvernement qui était le Parti Socialiste, mais qui s'est, lui, vraiment beaucoup, beaucoup plus affaibli et qui a, lui aussi, un problème, disons, qui a du mal à résister à une certaine forme de gauchisme culturel. Alors, il reste ce parti, les Républicains, qui a gagné quand même, qui a conservé ses positions pour l'essentiel aux élections municipales, départementales, régionales. C'est le principal parti en termes d'ancrage local et qui est peuplé de personnalités ayant dirigé le pays, ayant dirigé des ministères, ayant dirigé des collectivités locales. Donc, si vous voulez, c'est un peu un géant endormi pour l'instant, les Républicains.
Mais alors, justement, par rapport à votre nouveau livre, Bloc Populaire, il en est loin du Bloc Populaire, ce parti, les Républicains.
Ah, ça, c'est absolument stupéfiant. C'est-à-dire qu'il y avait eu, en 2007, ça paraît maintenant une éternité, il y avait eu une progression importante de la droite dans les milieux populaires. Il faut savoir qu'au second tour, en 2007, vous avez, face à Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy regroupait sur les instituts 50 ou 52% du vote ouvrier. C'était même un record dans l'histoire, en fait. Et tout ça s'est perdu pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, dans les dernières intentions de vote, selon les candidats, vous n'avez que 2 à 6% des ouvriers qui choisiraient. Je crois que 6%, c'est pour Xavier Bertrand, 2 ou 3, c'est pour Valérie Pécresse, par exemple. C'est devenu totalement marginal, voire inexistant. Je prends les ouvriers, mais on pourrait élargir ça aux employés, aux petits revenus, aux salariés d'exécution. Ils ne se sentent plus du tout concernés par l'offre électorale de la droite classique. On peut même aller plus loin en réalité. C'est un parti dont la base sociale est composée pour l'essentiel de retraités.
On y revient juste après une pause, Jérôme Sainte-Marie.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Saurons cet après-midi qui, de Valérie Pécresse ou d'Éric Ciotti, sera le candidat des Républicains à l'élection présidentielle. Nous sommes en direct ce matin avec Jérôme Sainte-Marie, spécialiste des études d'opinion qui publie Bloc Populaire. qui publie Bloc Populaire aux éditions du Cerf. Si jamais le candidat des Républicains ne figurait pas au second tour, quelles conséquences pourrait-il avoir ?
Alors dans cette hypothèse, on pourrait penser qu'il y aurait des ralliements encore accrus venant de ces élus LR vers essentiellement Emmanuel Macron. On peut penser que les élus iraient vers Emmanuel Macron et les électeurs iraient plus à droite. Ça s'est déjà produit, c'est une histoire qu'on a connue tout simplement en 2017. Ça serait un message terrible quand même. Ça signifierait que ce qui s'est passé en 2017, c'est-à-dire l'élimination de la droite, n'était pas un accident électoral, n'était pas dû uniquement à une affaire, à l'intervention du parquet national financier contre François Fillon, mais que ça serait quelque chose de structurel. Ça signifierait donc qu'on aurait deux systèmes politiques en France, un système gauche-droite au niveau local, qui persiste, on l'a bien vu au dernier scrutin intermédiaire, et au niveau national, ce clivage qui me paraît d'ailleurs, j'en parle dans le Bloc Populaire ou dans d'autres livres, un clivage qui me paraît plus moderne, plus pertinent, entre en quelque sorte les gagnants et les perdants de la mondialisation, entre ce que j'appelle le bloc élitaire d'un côté et le bloc populaire de l'autre. Ça signifierait que comme formule nationale, la droite n'arriverait plus à s'imposer, ce qui d'ailleurs aurait comme conséquence de faire disparaître également la gauche au niveau national. Vous savez, c'est gauche et droite, ça fait système, populiste, progressiste, ça fait système aussi. Et la droite, justement, essaye de rétablir cet ancien clivage, mais on voit qu'elle a beaucoup de mal à le faire.
Est-ce que ça ne se reproduit pas justement avec ces deux candidats, Valérie Pécresse étant plutôt, on pourrait dire, assimilable à Emmanuel Macron, et Éric Ciotti plutôt à Éric Zemmour ou à Marine Le Pen ?
Alors, je ne crois pas tout à fait. Je pense qu'effectivement, Valérie Pécresse, c'est surtout un candidat de substitution par rapport à Emmanuel Macron. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte, ce serait son élection à la présidentielle, la continuation du macronisme par d'autres moyens. Ce n'est pas du tout partisan que de dire cela. C'est assez assumé de son côté, dans les engagements pro-européens notamment manifestes. Alors qu'Éric Ciotti, ça serait plus, c'est davantage un candidat d'opposition, mais avec une très grande difficulté. C'est que lui aussi devra, s'il était élu, devrait composer avec ce réseau d'élus qui sont locaux, qui sont très modérés, et avec des gens qui, souvent, en matière économique et sociale, sont tout à fait favorables à la ligne suivie par Emmanuel Macron. Non, je crois que dans les deux cas, on aurait des contradictions assez importantes et une difficulté de positionnement.
Les sondages actuellement donnent au second tour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Comment expliquez-vous leur solidité électorale à l'un comme à l'autre ?
Alors, si vous voulez, dans ce que j'essaie de théoriser, c'est une polarisation. C'est une polarisation de la société déjà d'un point de vue social. Si vous regardez d'ailleurs le dernier ouvrage de Jérôme Fourquet, il aperçoit également cette polarisation. Elle est très nette. Entre les gagnants et les perdants, encore une fois, par rapport à la mondialisation. Et cette polarisation, elle a son pendant au niveau politique, avec d'un côté le macronisme, d'autre côté, on va dire, le lepénisme. Éric Zemmour est dans une situation un peu plus compliquée là-dessus. Et donc cette polarisation, elle concerne la moitié de l'électorat en réalité. Vous avez toujours entre les deux, c'est à peu près 50% des Français qui se reconnaissent encore dans les notions de gauche et de droite, qui sont plutôt dans les classes moyennes. Mais disons que vous avez un pôle qui est à la fois progressiste, pro-européen, composé de gens qui sont plutôt bien placés, à l'aise dans la société, et l'autre avec les gens peu diplômés, peu socialement dans une position difficile, qui eux ont basculé dans une forme de souverainisme intégral avec Marine Le Pen, ce qui donne en quelque sorte le ton, si vous voulez, du débat politique, même si les formules intermédiaires, puisqu'on est en train de parler de LR, continuent à exister.
Et Éric Zemmour, alors ?
Éric Zemmour, vous savez, n'est pas, à mes yeux, un leader véritablement populiste. Alors, ça peut surprendre, mais le populisme, c'est d'abord de refuser aujourd'hui le clivage gauche-droite. Éric Zemmour, c'est un projet très ambigu, puisque à la fois il a une forme de radicalité qui le fait classer parfois à l'extrême droite, notamment les sondages, par exemple, désormais les positionnés à la droite de Marine Le Pen. Et surtout, lui, il revendique l'union des droites. Et il considère qu'il y a une droitisation de la société. Ce n'est pas du tout évident. On voit bien qu'il y a une évolution de la société vers des positions plus radicales sur un certain nombre de sujets, comme l'immigration, par exemple. Mais ça ne se fait pas au nom de la droite. Donc, de ce point de vue-là, Éric Zemmour souhaite également rétablir ce clivage gauche-droite qui me semble aujourd'hui quand même bien abîmé.
Vous venez de publier Bloc Populaire, Jérôme Sainte-Marie. J'avais reçu ici Christophe Guillouis qui disait que ce sont les idées et les craintes du Bloc Populaire, lui, ce qu'il appelle les classes populaires, les gens ordinaires, qui sont aujourd'hui au centre de la primaire des Républicains et de la campagne présidentielle. Le pouvoir d'achat, la sécurité, l'identité, l'immigration, etc. etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Est-ce qu'il y aurait une victoire culturelle du Bloc populaire ?
Très largement. Alors, c'est une victoire défensive. Ce que veulent les gens, c'est tout simplement de la protection. Et c'est vrai que le projet très optimiste poussé par Emmanuel Macron en 2017 n'a pas totalement convaincu les Français. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a un pouvoir très fort, mais qui n'a pas véritablement conquis ce qu'on appelle, Gramsci, l'hégémonie culturelle, tout simplement. L'idéologie du macronisme est au pouvoir, mais elle n'est pas en réalité majoritaire. C'est ce qui donne cette impression de crise politique. Et puis, vous savez, pour aller dans le sens de Christophe Guilly, c'est qu'il y a eu comme un traumatisme absolu dans ce quinquennat. Ça a été tout simplement le mouvement des Gilets jaunes et le soutien très majoritaire, 70% à un moment donné, de ce mouvement pourtant émaillé de très grandes violences. Et donc, vous avez effectivement cette prise en main des catégories populaires par elles-mêmes, parfois même en dehors des partis politiques, qui s'est produit. On peut même considérer que c'est ces électeurs, et là-dessus je rejoins également la thèse de Christophe Guilly, les électeurs en quelque sorte imposent cette tonalité, imposent leur candidat, ou plus précisément imposent leur thématique au candidat. Donc oui, pour l'instant, c'est une victoire culturelle des classes populaires, mais qu'il demeure assez éloigné quand même de la victoire politique.
Merci Jérôme Sainte-Marie. Les résultats de la primaire Les Républicains, c'est cet après-midi. Et votre livre, votre dernier livre, Bloc Populaire, s'est paru aux éditions du CERF. On se retrouve dans un instant avec Pierre Malinowski. C'est lui qui a retrouvé la dépouille du général Gudin qui vient d'être déposée cette semaine aux Invalides.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
La dépouille du général Gudin a été déposée cette semaine aux Invalides, le 2 décembre exactement, jour anniversaire de la bataille d'Austerlitz, lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Anciens Combattants. Le général Gudin repose désormais près de Napoléon, avec qui il était adolescent à l'école de Brienne. L'empereur admirait sa bravoure. Pierre Malinowski, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui l'avez retrouvé, le général Gudin. Vous êtes en direct avec nous de Russie, vous êtes retourné. Vous avez raconté votre recherche à la recherche du tambour perdu. C'est paru au Cherche Midi en 2020. Votre spécialité, en effet, c'est de chercher les restes de soldats disparus il y a très longtemps. Le premier, vous aviez 5 ans. C'était un combattant de la Grande Guerre.
Oui, c'est exactement ça. Lorsque j'avais 5, 6, 7 ans, j'accompagnais mon père, on arpentait les tranchées de la Première Guerre mondiale sur le chemin des dames. Et la première fois qu'on a retrouvé un soldat, c'était un poilu vieux qui avait été tué en septembre 14. Et je m'en rappellerai toujours puisqu'il y avait des lambeaux de pantalon rouge. Et ça m'avait marqué, je m'étais dit, ce jeune gars, ce jeune soldat de 20, 25 ans, il avait une vie, une famille. Et tout de suite, je me suis donné une mission. Je me suis dit, plus tard, je retrouverai des soldats de toutes les guerres. Mais je n'avais jamais imaginé pouvoir atteindre, de retrouver un jour un général.
Votre père, d'ailleurs, ce jour-là, quand vous retrouvez ce premier soldat, vous montre son alliance où sont gravées ses initiales et celles de sa femme. J'ai l'impression que depuis lors, face à cette alliance, ce ne sont pas des os pour vous, ce sont des êtres humains. Vous les ramenez, alors non pas à la vie, mais à leur vie.
Bah oui, parce qu'ensuite, vous savez, j'ai été militaire pendant 8 ans. Et pour moi, quand je retrouve ces soldats-là, je me suis dit, tous ces soldats qui sont morts pour la France aux quatre coins du monde, ils méritent d'avoir un lieu, on va dire, de pèlerinage où les familles peuvent aller se recueillir. C'est très, très important pour l'être humain d'avoir un lieu où on peut aller sur une tombe, sur un corps perdu au milieu de nulle part. Vous savez, il n'existe pas. C'est juste un nom qui reste dans la famille, qu'on se transmet de génération en génération. Mais lorsque vous retrouvez le soldat en lui-même, c'est toute une famille, parfois de très très grandes familles, qui se recueillent autour de cette dépouille. Et moi, je trouve ça très très émouvant, puisque ces jeunes, ils sont morts dans la fleur de l'âge, ils sont morts pour la France et ils méritent d'avoir une sépulture décente.
Vous en êtes à combien aujourd'hui ?
Oula, alors là, si on compte tous les grognards de Russie, je ne sais pas, peut-être 400, 500, enfin, bon, au moins 400, ça c'est sûr.
Vous ne creusez jamais au hasard, hein. Vous savez où chercher, comme les chasseurs de trésors.
Alors maintenant, bien sûr, oui, puisque tous les projets que j'organise depuis des années, puisque j'ai une fondation là, de droit d'État russe, tout est organisé avec les archéologues, avec les académies des sciences des deux pays, puisque j'ai eu des archéologues français qui sont venus, mais aussi beaucoup avec les archéologues russes. Et bien sûr, j'étudie, c'est à chaque fois que je fais un projet, c'est plus d'un an de travail où on étudie, vous savez, les archives militaires, où on fait des analyses géophysiques, où on a déjà une liste, en fait, des types de soldats qu'on va retrouver, parce que vous savez, il y a eu tellement de guerres, il y a eu tellement de champs de bataille, qu'à chaque fois, je sais de quelle période, quel soldat je vais trouver. Excepté la Seconde Guerre mondiale, puisque vous savez que la Seconde Guerre mondiale en Russie, ça a été une catastrophe, c'est un cauchemar. Donc ça, même sur des, parfois, on retrouve à côté des fosses de Grognard, on retrouve des fosses de soldats de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est partout.
Alors, il faut savoir qu'en France, votre activité est illégale, hein, puisqu'il est interdit d'exhumer des morts et de rendre des soldats morts au combat à leur famille. C'est une loi française qui date de la Première Guerre mondiale. Tous ceux qui ont vu, revoir là-haut le film d'Albert Dupontel ou qui ont lu le roman de Pierre Lemaître la connaissent. C'était pour éviter que les familles aillent déterrer les cadavres à la fin de la Première Guerre mondiale et les fassent voyager à travers le pays. Est-ce que cette loi, elle est toujours en activité? Activité, hein, en France.
Ah ben bien sûr, et puis elle est toujours aussi dégueulasse, excusez-moi le terme. On est un des seuls pays justement à fonctionner comme ça. Si vous regardez les Américains, les Anglais, dès que vous retrouvez un soldat, directement, bah, vous avez quelqu'un de l'ambassade ou vous avez des militaires. Ils organisent même des fouilles à l'étranger. Hein. Vous savez, les Canadiens, les Anglais ont organisé des fouilles dans le nord de la France, bien sûr qui financent, il y a quelques années, près de Arras, pour retrouver des fosses de soldats qu'ils avaient localisés de leur pays. Les Russes, pareil, les Russes ont même un ministère en fait de recherche d'anciens combattants, de soldats. Ce sont des volontaires qui sont financés par l'État pour retrouver des soldats. Parce que pour eux, tant que le dernier soldat ne sera pas retrouvé, la guerre ne sera pas terminée en fait. C'est le principe. Il n'y a vraiment qu'en France où lorsque vous retrouvez un soldat, même par hasard les agriculteurs, bah, ils stressent de devoir le déclarer à la gendarmerie parce que tout de suite, bah, déjà, bon, ça c'est normal, mais il va y avoir une enquête criminelle qui est faite pour savoir si c'est bien un soldat qui a été tué pendant la guerre. Mais ensuite, bah, ils vont leur demander, vous ne l'avez pas cherché de vous-même. C'est vraiment très, très problématique cette loi en France.
Alors pourquoi le général Gudin, ça a été votre quête pendant plusieurs mois, plusieurs années, vous la racontez dans La recherche du tombeau perdu, pourquoi ce général-là?
Ben vous savez, Gudin, pour moi, là, c'est le générique de fin, on va dire exceptionnel sur le plan historique, une semi-réussite sur le plan diplomatique, hein, puisque bon, on n'a pas eu le niveau qu'on espérait sur, avec la présence des chefs d'État, mais Gudin, pour moi, c'était une liste, en fait, c'était un nom sur une liste de généraux disparus. Pour moi, je ne savais même pas qu'il y avait des généraux disparus, parce que souvent, vu le grade, durant toutes les guerres, les généraux tués étaient directement récupérés et enterrés. Mais en Russie, pendant la campagne de Russie, ça a été tellement intense, et puis vu la logistique, vous avez vu la distance entre la France et la Russie, il y a eu énormément de généraux qui ont été tués, c'est le record hein, pour la France, et ils ont été laissés sur place pour des questions sanitaires et surtout des questions de temps. Napoléon n'avait pas le temps de pouvoir récupérer les généraux. Donc, excepté quelques généraux, il a fait transférer le cœur à Paris, puisque ça, c'était plus simple, ils sont restés sur le champ de bataille. Et je me suis intéressé il y a 2 ans, je voulais faire un projet sur la campagne de Russie et de retrouver des corps de grognards et des soldats du Tsar, puisque vous savez, et même d'autres nationalités d'ailleurs, puisque dans la Grande Armée, vous aviez des Portugais, des Allemands, enfin des Westphaliens. Et j'ai regardé la liste pour des généraux disparus, et sur la liste, je suis tombé sur le général Gudin, que je ne connaissais absolument pas, c'était un illustre inconnu pour moi. Et j'ai vu qu'il était bon, bah, sur l'Arc de Triomphe, qu'il avait été à l'école avec Napoléon. Bon, il a une rue dans le 16e arrondissement. Et surtout, il a un parcours qui est quand même exceptionnel depuis la Révolution française. Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien retrouver ce général. C'est venu comme ça, vraiment, une journée.
Une fois que vous l'avez retrouvé à Smolensk, ça a eu un sacré retentissement. Hein, mais ça n'était pas fini pour autant. Il fallait encore le rapatrier. Or, c'est vous qui avez fini par le ramener en avion. Vous-même, pourquoi?
vous savez, vous avez été, pas un des seuls, mais vous m'avez reçu il y a un peu plus d'un an, justement, pour parler, une fois qu'on venait seulement de finir les analyses ADN. Et bien sûr, il s'est passé beaucoup d'aventures depuis notre dernière interview, puisque tout a été annulé en début d'année à cause des soucis, surtout la crise sanitaire, bien sûr, mais surtout les soucis diplomatiques avec la Russie, avec... Le Donbass, mais surtout la crise Navalny, on va dire. Et on m'a annoncé au mois d'avril cette année, un mois avant donc le bicentenaire de Napoléon, où c'était prévu d'enterrer Gudin aux Invalides, que tout était annulé du côté français et que Gudin devait être enterré en Russie, où en gros, faites-en ce que vous voulez, quoi. Et là, j'ai parlé un petit peu avec les médias et j'ai dit, d'accord, bon, c'est pas moi qui vais ramener Gudin. Je me suis dit, c'est impossible. Et j'ai laissé passer un mois. Et après le bicentenaire, au mois de mai, je me suis dit, oh non, je vais le ramener en France. Il faut que je trouve une solution. Je vais le ramener, même si je dois le ramener dans mon sac, que je le ramène parce qu'il mérite de retrouver sa terre natale. Et ça a été une très, très longue aventure où j'ai dû déjà monter un dossier, vous imaginez, même pas administratif, qui est très compliqué, parce que j'ai transformé Gudin, qui était un objet, on va dire, diplomatique et archéologique, en un être humain. Donc, en fait, c'est comme si la famille avait perdu leur arrière-arrière-grand-père et qu'ils voulaient le rapatrier dans leur village natal. Donc, il faut monter un très, très long dossier que je ne vais pas expliquer ici, hein, bien sûr, administratif avec le consulat, l'ambassade, les ministères, et ensuite trouver un avion. Parce que si j'avais été chez Air France et que j'avais demandé, vous pouvez me prêter un avion pour rapatrier un général, je pense que ça ne serait pas très bien passé. Donc, j'ai été voir mon sponsor et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me prêter un petit avion? Je ramène Gudin. Et il m'a dit non, il doit rentrer en avion français, c'est un ennemi, mais il doit rentrer en avion français, je te prête un Airbus. Donc il m'a prêté un de ces Airbus A320 tout seul. Alors moi, je vous avoue que c'était d'aventure déjà. Et j'ai prévenu l'aéroport du Bourget où je leur ai dit je rentre le 13 juillet, la veille du 14 juillet, avec Gudin, on va dire, dans les bagages. Et là, ils se sont dit, attendez, laissez-nous 2 jours pour réfléchir. Et ils m'ont rappelé 2 jours après, ils m'ont dit on va le rire, venez au Bourget. Et on le récupère au Bourget, et voilà. Mais je n'étais pas encore au courant de ce que le président de la République a décidé, parce que c'est lui-même qui a décidé ensuite de le faire enterrer aux Invalides.
Eh bien, quelle aventure. Merci Pierre Malinowski de nous l'avoir raconté. Pour ceux qui voudraient la connaître depuis le début, le livre s'intitule « À la recherche du tombeau perdu ». Il est paru au Cherche Midi en 2020. Merci Pierre, et bonne continuation alors. Europe 1. C'est arrivé cette semaine est terminé. Pierre de Villeneuve vient de rentrer dans ce studio. Quel est le programme
Bonjour Frédéric. On parlera évidemment de cette petite réunion des Républicains aujourd'hui, hein, où on doit connaître enfin le gagnant des DLR entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. On parlera de Omicron qui progresse en France et notamment des restrictions qui sont mises en place en Allemagne. Et puis également de cette vente de 80 Rafales aux Émirats Arabes Unis. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Les grandes voix, c'est juste après les infos. Merci Pierre de Villeneuve. Bonne émission.